Bien, bonsoir à tous et à chacun. Serge Receveur au microphone. Soyez les bienvenus, vous qui êtes présents dans le salon Albert Mola. Et vous, toujours plus nombreux, qui nous écoutez, nous réécoutez en podcastant cette émission au travers du site mola.com. Jean-François Kahn, bonsoir.
Bonsoir.
Nous vous recevons afin que vous nous entreteniez de l'ouvrage que vous avez fait paraître chez Fayard sous le titre « L'invention des Français, du temps de nos folies gauloises ». Jean-François Kahn, vous êtes journaliste, écrivain, historien.
Je ne suis plus journaliste, c'est pas grave. Mais...
Oui, mais ça reste toujours.
C'est dans vous croyez ?
C'est imprimé dans vos... en vous, oui, bien sûr. Vous avez été à l'origine de la révélation de l'affaire Ben Barka, je voudrais le rappeler. Vous fûtes directeur des Nouvelles Littéraires, vous avez créé l'événement du jeudi. Je lui ai dit tout à l'heure que j'ai acheté des actions à l'époque. C'était les premières actions que j'avais achetées dans la presse, c'est vous dire. Puis de l'hebdomadaire Marianne et auteur de nombreux ouvrages. Je rappelle que vous êtes un fin connaisseur de la chanson française. Mesdames, messieurs, je vous présente souvent des livres d'histoire, d'économie. Mais croyez-moi que celui-ci ne ressemble à aucun autre. C'est une étonnante fresque avec des milliers de personnages sur une période de 550 années. Il est écrit dans un style enlevé, mais on y reviendra. J'appelle ça le style enlevé, mais drôle. Et au moment, même en abordant des sujets graves, on ne va pas pouvoir faire un résumé des 589 pages donc je vais devoir faire, comme d'habitude, un choix arbitraire et nous concentrer sur certains personnages, sur certains événements et comportements. Par contre, d'entrée, je voudrais formuler une protestation, car vous traitez fort mal notre poète local, Ozone. Page 269, écoutez-moi bien, vous parlez des Gaulois, leurs poètes, au cours de 4 siècles de civilisation gallo-romaine, Ozone compris, n'ont jamais cassé 3 pattes à 4 canards. Et alors non seulement vous l'écrivez une fois, et vous remettez la compresse, hein, comme si on était un peu bouché à l'émeri, page 531... Je vais vous dire, c'est grave. Surtout en plus édité par une excellente maison qui s'appelle Mola, je vais vous dire. Donc vous trouvez ça chez Mola, à lire d'urgence. Mais on réglera cette offense au cours du casse-croûte à coup de fourchette tout à l'heure. Passons aux choses sérieuses. Comment expliquez-vous ce trou de mémoire de 5 siècles et demi?
En ce qui concerne la période gauloise, pendant, jusqu'au 19e siècle, elle avait disparu. Elle avait été totalement occultée. Pourquoi avait-elle... Alors, on ne niait pas qu'il y avait eu des Gaulois. Mais bon, on avait eu une période un peu sauvage, un peu barbare, ça ne méritait pas de s'y arrêter. Et pourquoi avait-elle été occultée, la période gauloise? Pour une raison politique, d'une certaine manière, qu'on comprend très bien. C'est que les aristocrates descendaient des Francs. Les Francs, c'est des Germains qui avaient conquis la Gaule. Donc, ils n'avaient aucune raison de parler du peuple antérieur, du peuple originel. Ils se réclamaient des aristocrates, ils se réclamaient des Francs. Pour eux, le peuple mythique, le peuple héroïque, c'était les Francs, des Germains. Les autres, ils étaient vaincus, ils étaient battus. D'autre part, les rois se réclamaient de Clovis, qui est Louis I. Clovis, c'est Louis I. Donc c'est pareil, pour eux, l'histoire recommençait avec le premier roi, donc avec Clovis, donc avec les Francs. Quant à l'Église, elle se réclamait de Clovis et du baptême de Clovis. Donc son histoire commençait également avec Clovis et le baptême de Clovis. Et donc personne n'avait intérêt à magnifier le passé franc, le passé gaulois, pardon, le passé gaulois. Et alors, qu'est-ce qui a été un peu l'étincelle ? Comme très souvent, vous savez que la Révolution française, on l'oublie souvent, a commencé en vérité par une réaction des nobles qui ont voulu revenir en arrière, c'est-à-dire qui ont voulu retrouver des privilèges qui n'existaient plus. Et cette volonté des nobles de retrouver des privilèges qui n'existaient plus a provoqué en réaction l'offensive, disons, du tiers état, pour simplifier. Eh bien, c'est très exactement ce qui s'est passé. Il y a un type qui s'appelle le comte de Boulainvilliers, et il faisait partie de cette tendance. C'était un noble réactionnaire, comme on dirait aujourd'hui. Et donc, il voulait, lui... il critiquait la monarchie de Louis XVI, mais parce qu'il voulait revenir à la féodalité. Il voulait revenir à l'époque vraiment où les nobles ou les aristocrates avaient absolument tous les droits. Donc, il écrit un livre, et dans ce livre, il dit « Nous, les aristocrates, eh bien, nous sommes effectivement la classe supérieure, on mérite d'être la classe supérieure, on mérite de diriger l'État, parce que nous sommes descendants des guerriers francs, Brunehilde, Gontran, enfin tout ce qu'on retrouve dans les opéras de Wagner, Siegfried, et nous avons vaincu ces minables, nuls, faits pour être soumis que sont les Gaulois. » Et à ce moment-là, ça a provoqué une réaction, un peu tardive, en particulier de Sieyès. Comment ? Ah, vous avouez que vous êtes une classe dominante, une classe étrangère, qui a imposé son oppression sur le vrai peuple, qui est le peuple gaulois, dont nous descendons, nous, le tiers-État. Et à ce moment-là, il y a eu une tendance extrêmement forte des libéraux, enfin du tiers-État, des libéraux, et ensuite des républicains, de se réclamer des Gaulois, de réhabiliter les Gaulois contre l'aristocratie qui était d'origine franque. Voilà comment, au XIXe siècle, on a tout à coup retrouvé et magnifié les Gaulois. Alors, il y a eu les libéraux, puis les républicains, deuxième phase. Il y a même un livre de Gensu qui s'appelle « Les mystères du peuple », extraordinaire, un livre de 800 pages, où il explique toute l'histoire de France de façon très manichéenne. C'est toujours une lutte entre la gauche et la droite. Enfin, lui, Gensu se réclamait du socialisme, etc. Donc, toute l'histoire de France, c'est une histoire d'une lutte éternelle entre gauche et droite, et la droite... C'est des Boches, c'est des Allemands, c'est des Francs, et le peuple, et la gauche, et les Gaulois. Donc, ça ne correspond à aucune réalité, mais il y a eu cette tendance-là. Et ensuite, alors, à partir de Napoléon III, il y a eu une confiscation nationaliste des Gaulois. Alors là, sur un autre thème, qui est, nous avons une identité ethnique, nous sommes un peuple qui avons des racines profondes, et pour magnifier notre existence pure, en tant que peuple pur, tout à coup, on a réhabilité notre sang celte, si vous voulez. Et ça a été la dernière phase. D'ailleurs, il y a...
C'est Napoléon.
D'ailleurs,
Vercingétorix.
D'ailleurs, pour ceux qui connaissent Clermont-Ferrand, beaucoup moins beau que Bordeaux... Non, mais en plus, c'est vrai, quand même. Il faut être objectif. Pour ceux qui connaissent Clermont-Ferrand, il y a une grande statue de Vercingétorix. Énorme statue de Vercingétorix. À Alésia aussi, c'est la même. Mais on ne connaît pas la tête de Vercingétorix. Personne ne connaît la tête de Vercingétorix. Alors, comment on a fait la tête de Vercingétorix dans cette statue ? Eh bien, le type, il lui a fait la tête de Napoléon III jeune. Comme ça, il était bien vu par l'empereur. Pas de problème. Donc voilà un peu comment il y a eu une... Alors du coup, j'ajoute que comme on a redécouvert les Gaulois tardivement tout à coup, alors dans la foulée, on a redécouvert quelqu'un dont on ne parlait plus du tout, alors qu'il avait complètement disparu, qui était Vercingétorix. Mais eux, là, pour Vercingétorix, c'est que même les Gaulois n'en parlaient plus. Parce que finalement, Vercingétorix, ça a duré 6 mois d'abord, puis il s'est fait quand même battre. C'était pas un grand stratège. Et puis se faire enfermer à Alésia, il fallait le faire. Dans ce genre absurdité stratégique, on peut pas faire mieux. Aller c'est s'offrir quasiment à l'adversaire. Donc ils étaient pas tellement fiers de Vercingétorix, les Gaulois. Ils étaient pas fiers d'une défaite. En plus, une chose qu'on ne rappelle jamais... Parce qu'on a, comme vous le dites très bien, on a occulté complètement toute cette histoire. Oui. C'est que vers le 1er siècle avant Jésus-Christ, les Gaulois, les Celtes, ont commencé à venir aux 6 siècles avant Jésus-Christ. Hein, ils se sont installés. Il y avait 70 nations à peu près. 70 nations avec des chefs, des petits chefs, des princes. Bon. Et vers le 1er siècle, sous influence de Rome, d'une part, et de Marseille, qui était une ville grecque, car Marseille avait été créée par les Grecs, et c'était une république. Depuis 600 ans avant Jésus-Christ, c'est une république. Et
donc, comme vous nous parliez tout à l'heure de Marseille.
Sous influence de cette modernité, on peut dire, qui était donc des républiques, il y a eu dans presque toutes les, pas toutes, mais dans presque toutes les nations gauloises, des révolutions où ils ont renversé la monarchie et proclamé des républiques sénatoriales, à l'imitation ou de Marseille ou de Rome. Mais naturellement, il y avait un conflit entre le parti républicain qui défendait le système républicain sénatorial et le parti monarchiste. Car il faut quand même voir que même au 1er siècle avant Jésus-Christ, dans toute nation gauloise, il y avait au moins deux partis. Il y avait un parti monarchiste, un parti républicain qui se menaient des batailles absolument terribles. Et quand les Romains ont envahi la Gaule, il y avait dans presque toute nation gauloise un des partis qui soutenait les Romains et un autre parti qui soutenait la résistance gauloise. Il ne faut pas croire qu'il y avait une unanimité comme ça. Or, chez les Arvernes, donc, qui est le peuple de Clermont-Ferrand, les Auvergnats d'aujourd'hui, chez les Arvernes, ils avaient fait une révolution également pour proclamer la République. Et il y a un noble, un type de l'aristocratie, qui avait essayé de rétablir la monarchie, de faire un coup d'État pour rétablir la monarchie. Et le Sénat l'avait condamné à mort pour tentative de putsch, et il avait été exécuté pour tentative de putsch. Or, Vercingétorix, c'est son fils. Et Vercingétorix, à son tour, essaye de renverser la République pour proclamer la monarchie. Mais lui, il y arrive. Donc, il ne faut pas oublier que Vercingétorix, dans la tête de beaucoup de Gaulois, et même de certains Auvergnats, ne serait-ce que ceux qu'il a exilés, c'était un putschiste qui avait rétabli la monarchie après avoir renversé la République. Il y avait une division terrible, même chez les Arvernes, ce qui fait que quand Vercingétorix a perdu à Alésia, tous les élites d'Arvernes ont dit « Ah non, mais on n'a rien à voir avec lui, on n'est pas responsable, d'ailleurs il avait fait un putsch, d'abord c'est un mauvais type, etc. »
Oui, mais enfin, il avait sa clientèle.
Alors il avait sa clientèle, parce qu'à l'époque, c'est très juste, c'est comme ça qu'il avait fait un putsch, parce que tous les nobles, quand ils étaient riches, payaient un certain nombre de gens qu'on appelait leur clientèle et qui vous étaient totalement acquis. Au troisième, à ce moment-là, ça n'existait plus, mais au IIIe siècle avant Jésus-Christ, non, la clientèle, quand le type mourait, devait se tuer avec lui, pour vous dire à quel point c'était, ou se faire enterrer avec lui. Bon, ça n'existait plus de Vercingétorix, mais c'est vrai qu'il avait sa clientèle. Et c'est en recrutant sa clientèle, et un certain nombre de, y compris de bandits d'ailleurs,
bandits
de grand chemin, de vagabonds, qui a rassemblé une armée, et qu'il a renversé donc l'État, la République, pour ce proclamer-là. Donc tout ça pour vous dire que au moment... après Alésia, on n'en parle absolument plus. Et c'est pareil, c'est au XIXe siècle où, alors là, surtout Napoléon III, d'ailleurs, dans la foulée du Bonapartisme, qu'on redécouvre Vercingétorix. On a raison, parce qu'il a existé, qu'il a effectivement résisté aux Romains, qu'il a effectivement fédéré les peuples, mais tout à coup, on passe d'un extrême à l'autre et on en fait un héros extraordinaire, ce qu'il n'a pas été non plus, qui était tout à fait exagéré.
Donc Camille Julian, qui est un de nos historiens
Camille Julian, absolument.
Enfin, pas seulement local d'ici.
Ne me fais pas dire du mal de tous les locaux. Ouais.
Je vous attendais au coin de la rue.
Objectivement, Ozone, son mérite, c'est que c'est un des rares poètes gaulois, c'est un des premiers poètes gaulois, et en plus très, très considéré de son temps, un type absolument extraordinairement cultivé, un humaniste avant la lettre, etc. Mais très objectivement, on ne peut pas dire que c'est un très grand poète. Franchement. D'ailleurs, il a passé sa vie à écrire des poèmes sur les villes, le paysage, les régions.
Jean-François, n'insistez pas. Ça n'est pas négociable. Alors, écoutez-moi, mais vous avez un article sur un chapitre sur Alésia. Ce qu'on ne dit pas sur Alésia.
Oui, parce que... Alors ça, c'est intéressant, au-delà du cas de Vercingétorix.
Oui, je vous coupe juste. À propos de votre style du livre, ça, on voulait en parler. Il faut que vous sachiez, ce n'est pas écrit comme un livre habituel. Vous verrez. C'est un style... Vous ouvrez la première page, vous écroulez en rigolant après, et même avec les choses les plus graves. Mais parlez de style et pourquoi vous l'avez pris ce parti pris.
D'abord, quand Michelet a raconté l'histoire de France, il a écrit comme on écrivait au 19e siècle. Il n'a pas écrit comme on écrivait au 18e. Donc, je ne vois pas pourquoi j'écrirais comme on écrivait il y a 50 ans. J'écris avec le style d'aujourd'hui, le style moderne. Je ne vais pas écrire comme Cicéron. Mais surtout parce qu'on en parlait tout à l'heure. Évidemment, quand vous faites un travail comme ça, ça vous demande un travail de documentation, d'enquête, de recherche. Pour 4 ans, 3-4 ans. Enfin, 3-4 ans, dans la mesure où il y a d'autres tomes et que ça joue aussi sur les autres tomes, avec des fiches, etc. Très bien. Et donc, j'ai lu beaucoup de livres. Je ne dirais pas tout ce qui s'est écrit, mais presque tout ce qui s'est écrit sur cette période, etc.
Vous avez derrière la liste de la bibliographie.
Et j'étais sidéré et consterné. Parce que vous lisez des livres formidables, à qui je dois beaucoup. Type sur des périodes extrêmement brèves, des sujets très pointus. Le type, il a étudié, il a fouillé, il a été chercher des documents, il connaît tout. En plus, souvent, c'est intelligent, etc. Sauf que c'est illisible. C'est illisible. Et je me dis, mais attends, ce type, il y a passé sa vie. Il y a mis son ardeur, son intelligence. C'est formidable. Il n'y aura pas plus de 500 lecteurs. Ce n'est pas possible. Et je me dis, mais quel gâchis! Quel drame, d'une certaine manière. Et donc, ça jouait aussi dans ma volonté me débarrasser complètement de ce style universitaire imposé qui fait que finalement, ils ne sont pas lus alors qu'ils le mériteraient. Voilà, donc, j'ai donné un peu ce ton moderne, disons.
Oui, tout à fait.
Alors, pour Alésia, c'est intéressant. D'ailleurs, ça rejoint cette question. C'est quand même... Il faut savoir une chose. Un, les Gaulois... n'avaient pas d'écriture. Pourquoi n'avaient-ils pas d'écriture ? Pas du tout parce qu'ils n'étaient pas intelligents, ils étaient capables d'avoir une écriture, mais parce que les curés, c'est-à-dire
les druides,
leur avaient interdit d'avoir une écriture pour se garder le monopole de la transmission et de l'éducation. C'est formidable, dans le genre. On ne peut pas aller plus loin dans le totalitarisme que ça, quoi. Le même échec, bon. Et eux, donc, ne pouvaient pas avoir d'écriture. Ce qui fait que, qu'il fallait quand même qu'ils écrivent un truc, je ne sais pas, à défense de pisser sur le mur... Il l'écrivait en grec grâce à Marseille, parce que les Marseillais étaient grecs, prenaient des lettres grecques. Avant, ils avaient mis des lettres phéniciennes de Carthage, enfin bref, mais eux, ils n'avaient pas d'écriture. Donc, il n'y a aucun texte gaulois, aucune description gaulois. Et en particulier, la guerre des Gaules, on ne le connaît que par les Romains, c'est-à-dire par l'occupant, par le vainqueur. On a une seule version de la guerre des Gaules, une seule. Déjà, même les Romains, il n'y a que César qui le raconte. Alors, dans d'autres, ils sont plus nombreux, mais là, il n'y a que César. Donc, c'est exactement comme si on ne savait des souris que ce que les chats en disent, d'une certaine manière. Donc, on a...
Et avec des chiffres gonflés.
Et alors, vous pouvez me dire... César, donc il va dire du mal de nous, puisque c'est l'occupant. C'est l'inverse. C'est que Jules César, il écrit la guerre des Gaules pour se mettre en valeur, parce qu'il sait qu'il veut conquérir le pouvoir à Rome, se faire nommer dictateur à Rome. Donc c'est un livre de propagande. Donc il écrit, il dit, oh là là, j'ai vaincu des gens formidables. D'abord, ils étaient très nombreux, extraordinairement nombreux, je les ai vaincus quand même. Ils avaient des chefs, mais inouïs, je les ai vaincus quand même. C'est des soldats, mais absolument les meilleurs du monde, je les ai vaincus quand même. Donc au contraire, il nous magnifie de façon exagérée. Et en fait, il fait à zéro de plus. Quand il est devant 8000 hommes, il dit 80000 hommes. Les Gaulois étaient de très mauvais soldats, très courageux. Très courageux, mais alors ils fonçaient devant en s'agitant, en hurlant, machin. Aussitôt qu'ils tombaient sur un bœuf, ils étaient démoralisés. Ils avaient des épées qui se cassaient parce que c'était du mauvais fer. Enfin bref, c'était très mauvais soldats. Quand ils sont devenus mercenaires à l'étranger, ils sont devenus de très bons soldats. Parce que là, on leur apprenait la tactique, la stratégie. Et comme ils étaient très, très courageux, ils sont devenus des soldats magnifiques. Mais chez eux, c'était de très mauvais soldats. Leur chef, il n'est pas terrible. Bon, très bien. Mais... César, les magnifiques. Et naturellement, on était très contents dès qu'on a pris à la lettre ce qu'écrivait César, et on s'est mis à dire, bon, formidable, voilà. Mais surtout pour les chiffres. Il dit à Alésia, le Vercingétorix avait une armée de 80 000 fantassins et 10 000 cavaliers. D'abord, si vraiment il avait 80 000 fantassins et 10 000 cavaliers, le fait qu'il se soit fait piler par 40 000 Romains prouve qu'il était vraiment nul. Bon, enfin, bref, il ne se bat même pas. Et donc, il se réfugie à Alésia. Est-ce que quelqu'un a été à Alésia parmi vous, déjà ? Personne. Ils n'aiment pas la Bourgogne, ici. Et alors ? Eh bien, si vous allez à Alésia, Vous voyez qu'on ne peut pas, que même 8000 hommes seraient très compressés.
Ça ne tient pas là.
Ça peut tenir 8000 hommes, pas plus. Et les historiens, sous prétexte que César l'a dit, reprennent 80 000 hommes, dont 10 000 cavaliers. Et dans l'histoire d'Alésia, donc il est assiégé, et à un moment, et ça d'ailleurs de sa part, ça c'est vachement bien, il envoie des cavaliers qui arrivent à rompre les rangs romains dans toute la Gaule pour demander que toutes les peuples qui ont adhéré à sa cause lui envoient une armée de réserve, une armée de secours, une mobilisation générale.
En l'occurrence, ce qui se passe,
Oui et non.
Il y arrive.
Il refuse la mobilisation générale. Mais ils disent, on va vous envoyer des contingents. Il refuse la mobilisation générale parce que d'abord, certains étaient pro-romains, tous n'étaient pas pour Vercingétorix. Et dans les gens qui étaient contre les Romains, il y en a qui étaient jaloux de Vercingétorix. C'est-à-dire, il voulait bien combattre les Romains, mais à condition qu'il soit chef. C'est-à-dire, pourquoi c'est lui le chef, etc. C'est toujours pareil. Bon. Enfin bref, donc, il dit, non, on ne va pas leur envoyer une mobilisation générale. Mais on va leur envoyer des contingents. Et César explique ça. Et il explique qu'ils envoient une armée de réserve de 250 000 hommes. Alors là, 250 000 hommes, pour 4, plus 80 000, ça fait 330 000. Et à 330 000, ils se font piler par 40 000 Romains. Là, c'est même pas qu'ils sont nuls. C'est que ça devient la nullité atteint des sommets. Évidemment, c'est pas vrai. En plus...
D'ailleurs, vous rappelez, Wagram, c'est 180 000.
Ah oui, Wagram, c'est 180 000. Quand les troupes napoléoniennes franchissent le Dniepre, ils mettent 4 jours et 4 nuits. Donc c'est absurde. Alors, ils devaient être, je sais pas, 12 000, 14 000, 13 000. En plus, de toute façon, ils ont fait de la cavalcade, ils se sont montrés, ils ont un peu combattu et tout. J'ai dit, bon, on a fait notre devoir, puis ils sont rentrés chez eux. Il n'y avait plus personne, et c'est pour ça que, finalement... Alors, il a dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a quand même un chef gaulois qui a fait un discours en disant, on ne doit pas capituler, on doit résister, mais on n'a plus rien à bouffer. Et il a dit, on mange les vieillards. Et là, il y a eu un vote, et ils ont considéré que l'anthropophagie n'était pas gauloise. Et donc, finalement, ils ont livré Vercingétorix, qui n'a jamais la scène où il arrive à cheval avec des armes, il jette les armes, etc. Évidemment, pas vrai. Vous croyez que César aurait accepté le mec qui fasse son numéro? Pas du tout. Ils l'ont livré, on l'a pris, on l'a fait prisonnier. Et pourquoi il s'est livré? D'une façon générale, tous les chefs gaulois, d'ailleurs, d'une façon générale, tous les chefs à l'époque, mais surtout les chefs gaulois, il y en a eu beaucoup d'autres, parce qu'il y a eu de formidables résistances gauloises qu'on a complètement oubliées.
On va en parler, là, de
Et tous les chefs gaulois, quand ils sont vaincus, se suicident. Tous se suicident. Et lui ne se suicide pas. Et il va du coup connaître un martyr terrible. On va le garder 9 ans dans une prison, on va l'étrangler. Enfin, c'est horrible, c'est ça. Mais pourquoi il ne se suicide pas? Parce que quelques années avant, il avait été lieutenant de César. C'est-à-dire que à l'époque, un certain nombre de peuples, dont les Arvernes, puisque là, quand c'était une république, avant qu'il ait pris le pouvoir, les Arvernes étaient une république, ils avaient fait une alliance avec César. Or, tous les peuples qui faisaient une alliance avec César, César considérait que les Gaulois ne pouvaient pas avoir confiance, que vraiment ils changeaient d'avis, etc. Donc, quand on faisait une alliance avec lui, il disait, d'accord, mais vous m'envoyez des otages, comme ça, c'est une assurance. Et donc, il demandait toujours des otages, c'est-à-dire des filles, des fils des grandes familles. Et donc, il avait été un des fils de grandes familles qu'on avait envoyé à César, comme ce qu'on appelait otage. Et César en avait fait un de ses lieutenants. Il l'aimait beaucoup, trouvait qu'il était sympathique, c'était un jeune plein de fougue, etc. Et donc, Vercingétorix s'est dit, au nom de notre cohabitation, du fait qu'on a travaillé ensemble, etc., évidemment, il va me faire grâce. Ben, pas du tout, l'autre, il n'a pas fait grâce. Au contraire, il l'a d'autant plus tué qu'il considère qu'il l'avait trahi.
Parlez-nous de Vindex, puisque justement vous parliez qu'il y avait d'autres personnages aussi importants.
Alors,
Alors, Vindex, je vais vous dire, moi je ne connaissais pas. Vous me direz, ce n'est pas une nouveauté, mais enfin bon...
Et alors, est-ce que vous connaissez Tetricus? Et c'est extraordinaire, je fais une parenthèse sur Tetricus de War. C'est extraordinaire que vous ne le connaissiez pas. Tetricus, ça illustre le fait qu'on a un trou, qu'on a tout occulté. Mmh. Vers 280, quelque chose comme ça, après Jésus-Christ, y a un Gaulois, un général gaulois, qui se révolte contre les Romains, qui fait une sorte de coup d'État, qui prend le pouvoir en Gaule, qui se fait nommer empereur de Gaule et qui arrache la Gaule à la domination romaine. Et donc, il rétablit l'indépendance de la Gaule. Personne ne le sait. On ne le raconte jamais.
Jamais.
Et il rétablit l'indépendance de la Gaule. Hein, et lui, il va régner 10 ans quand même, 10 ans à la tête de la Gaule. Les Romains envoient une armée contre lui et il les bat. Il écrase l'armée romaine. Donc c'est, alors lui, c'est pas Vercingétorix qui n'a quasiment jamais gagné une grande victoire. Lui, vraiment, il écrase l'armée romaine. Et puis, au bout de 10 ans, il est assassiné, ça arrive souvent. Son fils lui succède. Son fils est d'ailleurs aussi assassiné. Et il demande à leur cousin de lui succéder, qui devient empereur gaulois à son tour, qui s'appelle Tétricus. Et il est d'ici. Il est de Bordeaux. C'est le gouverneur d'Aquitaine. Et son palais est à Bordeaux. Et c'est celui qui a fait le plus pour Bordeaux. C'est-à-dire celui qui a fait, sous les Romains, l'Empire gallo-romain, celui qui a fait les premiers grands travaux vraiment à Bordeaux, qui en a fait une ville magnifique, splendide, etc., en tant que gouverneur d'Aquitaine, avant de devenir empereur gaulois, c'est ce Tétricus. Et ensuite, il est devenu, pendant 2-3 ans, il est devenu empereur de Gaule, donc roi de France, d'une certaine manière. Vous voyez, et c'est un Bordelais, et vous ne connaissez pas. Alors, Vindex. Là, alors, tenez-vous bien, ça, c'est une révolte, une révolution en Gaule. Et cette révolution se passe, vous savez, en quelle année? En mai 68. Ça se passe en mai 68. Après Jésus-Christ, mais mai 68. Et donc, ça commence au mois de mars. La révolution va éclater au mois de mai, mais ça commence au mois de mars. Vous avez, c'est Néron qui règne. Là aussi, il faut bien voir une chose. Le roi de France, c'est Néron. Une des raisons pour lesquelles on a occulté toute cette période, c'est qu'on ne veut pas s'avouer que Néron est roi de France, que Caligula est roi de France, que Auguste est roi de France. Tant que la Gaule est romaine, et sauf dans les épisodes où la Gaule reprend son indépendance et a son propre empereur gaulois, mais dans les rois de France, les chefs de la France, c'est les empereurs romains. Donc Néron, c'est le roi de France. C'est Néron qui règne. Et il y a 3 gouverneurs en Gaule, dont le principal qui est à Lyon. Bon, c'est vraiment le gouverneur des Gaules. Et ce gouverneur, qui est un Gaulois, car les Romains donnaient beaucoup de possibilités pour les Gaulois de jouer un rôle important. C'était pas des colonialistes comme au XIXe siècle, hein. C'était beaucoup plus ouvert. Et donc, y a un Gaulois qui s'appelle Vindex, qui est d'ailleurs d'Aquitaine.
Oui.
Qui avait été lui aussi gouverneur d'Aquitaine, entre parenthèses. Et ce Vindex, qui est sans doute un prince gaulois d'Aquitaine, d'ailleurs, à l'origine, c'est le gouverneur. Donc, c'est le représentant de Néron. Et un jour, il décide, il fait savoir par ses cavaliers, qu'il convoque une grande réunion de tous les peuples gaulois, les 70 peuples gaulois. D'habitude, ça avait lieu en août, et là, ça a lieu en mars. Donc, Jean dit, c'est bizarre, comment ça se fait qu'il a changé la date, il se passe quelque chose, bon, enfin bref. Et du même coup, ils arrivent de partout, ils sont plus nombreux que d'habitude. Il y a même des femmes, ce qui est très rare, il y a même des femmes parmi eux. Il y a tous les nobles, tous les chefs, tous les guerriers, mais il y a aussi des paysans, ils arrivent partout. Bon. Et ils se réunissent à Lyon, ce qui correspond à la Croix-Rousse aujourd'hui, un énorme chien autour. Ils se réunissent, ce Vindex monte à la tribune et leur dit, j'ai quelque chose de extrêmement grave à vous dire. Vous imaginez, c'est le représentant de l'empereur de Rome, Néron. Nous sommes gouvernés par un tyran épouvantable, un vicieux, un assassin, un personnage terrible. Eh bien, nous, Gaulois, je vous appelle Gaulois, au nom de l'humanité, au nom des droits de l'homme, au nom de la République, au nom de la liberté, de vous révolter contre la tyrannie. C'est extraordinaire parce que c'est sans doute une des premières révoltes dans l'histoire qui ne se fait pas au nom du nationalisme, au nom de l'ethnie, au nom de l'indépendance. Il ne demande pas l'indépendance de la Gaule. Il accepte tout à fait que la Gaule soit romaine. Il veut changer au nom de l'univers, il dit, au nom de l'univers, donner un exemple à l'univers, montrer que nous, Gaulois, nous pouvons donner cet exemple à l'univers d'abattre la tyrannie et de rétablir les principes républicains, parce que Rome prétendait toujours république. Il y avait des empereurs comme Néron, mais officiellement, c'est république. Et il mobilise 100 000 Gaulois, quand même 100 000 hommes, et il y a un affrontement entre lui et des armées romaines que Néron envoie. Finalement, il est battu, parce qu'il faut voir ce que c'est qu'une armée romaine. C'est d'une efficacité, c'est une machine de guerre terrible. Il est battu. Ils ont 20 ou 30 000 morts, on raconte. N'empêche que son dynamisme, ce qu'il a lancé, va quand même permettre de renverser Néron. Donc lui, il suicide, pour le coup, après la bataille. Et on veut en faire un empereur, il refuse, il suicide. N'empêche qu'il a créé un mouvement qui va renverser Néron. Donc il est à l'origine du renversement de Néron. Donc, et ça, on l'occulte complètement, on n'en parle pas. Et dans la foulée de cela, Alors ensuite, il y a Néron est renversé, il y a plusieurs empereurs qui se battent. Et l'année d'après, 69-70, du coup, comme il y a un moment d'anarchie, il y a un autre Gaulois, mi-germain, mi-gaulois,
mi-germain,
qui s'appelle Civilis, qui lance à son tour une révolte, mais cette fois nationaliste, pour arracher aux Romains la dépendance de la Gaule. Et vous avez deux Gaulois, un qui s'appelle Classicus et l'autre Tutor, qui sont des Trévires, c'est-à-dire des gens de la Moselle, en gros, plus un autre qui est du centre de la France, qui se réunissent à lui et qui provoque une révolte gauloise. Une grande révolte romaine. Et là aussi, ils arrivent à mettre hors de combat 5 légions romaines, c'est considérable. Une légion, c'est 6000 hommes. 5 légions romaines, et arracher l'indépendance de la Gaule. Pendant 7 mois, ça ne dure que 7 mois, mais pendant 7 mois, ils arrachent l'indépendance de la Gaule. Et pendant ces 7 mois, ils réunissent tous ces chefs gaulois révoltés, ils se réunissent à Cologne, et là, ils lancent l'idée d'une fédération européenne.
C'est le pacte fondateur.
Voilà, un pacte de fédération européenne avec l'Allemagne, avec la Belgique, avec l'Angleterre. C'est la première fois dans l'histoire qu'on commence à lancer l'idée d'un pacte. Et finalement, les Romains envoient des troupes, toujours plus de troupes. Et à ce moment-là, les insurgés se divisent. Et on a une extraordinaire, d'ailleurs, que je raconte, parce qu'on a l'impression que c'est Pétain de Gaulle. C'est-à-dire qu'on a vraiment celui qui dit « Non, il ne faut pas résister, c'est pas possible, il vaut mieux trouver un armistice, s'arranger avec l'occupant, etc. » Et les autres qui disent « Au nom de l'honneur, il faut résister jusqu'au bout. » Il y a vraiment un affrontement extraordinaire. Et finalement, les partisans du compromis et de la capitulation gagnent, et les Romains reprennent l'avantage. Mais c'est quand même une histoire extraordinaire. Et alors, celui qu'ils nomment Gondois, qui s'appelle Albinus, le type qu'ils ont nommé empereur gaulois. C'est le troisième, un de leurs chefs, qui s'appelle Albinus, qui est nommé empereur gaulois, qui est chef de Gaulle. Lui, il est très vite battu par les armées romaines, parce qu'en plus, il a un autre peuple, comme toujours, les Gaulois se divisent, et donc il y a un autre peuple gaulois qui l'attaque. Bon, enfin bref, il est battu, il se suicide. Enfin, officiellement, il se suicide. Et il suicide, comme se suicident beaucoup de chefs gaulois, qui consistent à aller dans une maison et y mettre le feu. Et alors, il est avec ses camarades, et il leur dit, bon, bah, ça y est, maintenant, écoutez, partez, allez, vous en laissez-moi tout seul, que je vais aller dans la maison, je vais mettre le feu. Donc, il se retire, et lui, il va dans la maison, il met le feu, etc. Très bien. Sauf qu'en vérité, c'était une ruse, et qu'il n'a pas du tout mis le feu, et que le type est totalement vivant. Simplement, c'est une façon de s'en tirer. Et il erre, et il trouve une grotte. Il se cache dans la grotte. Avec un seul compagnon qui sait, connaît l'histoire, qui est avec lui. Et son compagnon retrouve sa femme, qui naturellement, je se considérais comme veuve, et lui explique que l'autre, il est dans la caserne. Donc sa veuve le rejoint dans la caserne, dans la caverne. Et là, ils vont vivre 9 ans dans cette caverne, 9 ans.
Pardon, 9 ans.
Ils vont avoir 2 enfants qu'ils vont élever dans la caverne. Et c'est extraordinaire. Donc, ils vont vivre comme ça, le couple, l'amour. Alors, elle, de temps en temps, elle sort parce qu'elle alors elle pleure parce qu'elle fait toujours un remède pour dire je suis veuve, etc. Et en fait, elle le rejoint. Et là, ils vivent, ils ont 2 enfants qu'ils élèvent jusqu'à l'âge de 9 ans. Et finalement, quand le soldat qui connaît le mystère meurt, on dit, mais est-ce qu'il a une famille, etc. Et on dit, mais vous savez, il allait souvent à tel endroit. Alors, on suit pour voir s'il n'a pas une famille. Et en fait, on découvre la caverne et on découvre le couple. Et on les dénonce aux Romains. Donc les Romains les font prisonniers, les emmènent à Rome. 9 ans après, c'est quand même... Et ils comparaissent devant l'empereur lui-même, parce que c'était une histoire... Il n'y avait pas encore François ou je ne sais pas quoi à l'époque, mais c'était pareil. C'est-à-dire quand il y avait une histoire comme ça, tout le monde en parlait. Donc c'était devenu très connu, le couple qui était resté 9 mois dans la caverne.
En plus, les Gaulois étaient les spécialistes des ragots.
Oui, c'est ça. En plus, il y a les Romains. Donc l'empereur, il dit, emmenez-les-moi. Bon. Et alors, il dit, écoutez, Albinus, excuse-moi, vous êtes rebellé contre Rome, vous avez pris la tête d'une révolte contre Rome, je suis obligé, je vous condamne à mort. Mais il dit à sa femme, qui s'appelle Éponine, sa femme, et il dit à sa femme, non mais vous, naturellement, je vous fais grâce, etc. D'autant qu'il y avait les 2 enfants à côté, elle est venue avec les 2 enfants, et tout son truc, c'est je vais obtenir la grâce de tout le monde, parce que moi, avec mes 2 enfants, notre histoire... Or, l'empereur, non, il condamne à mort le type. Et elle avait dit, c'était prosterné, elle avait dit quand même, je suis sûr que votre clémence, etc. Dit non, je condamne à mort. Et à ce moment-là, elle se dresse, cette Éponine, Elle dit, bah, puisque c'est comme ça, je vais vous dire la vérité. Je vous hais, je hais Rome, je hais votre colonialisme, je hais votre oppression. Et je veux absolument qu'on reprenne le combat pour pouvoir arracher la Gaule à pour une espèce de extérieur. Elle dit, ah bon, parce que c'est... Elle dit, d'ailleurs, je veux aller avec mon mari et je veux le suivre dans la mort. Et l'empereur dit, bon, bah, puisque vous le voulez. Et finalement, elle se sacrifie, elle va à la mort avec son mari. Moi, je trouve qu'on aurait dû faire des opéras sur cette histoire.
Bien sûr. Il n'y a que les Allemands qui font ça. Parlez-nous un peu de Marseille. Comment ça a évolué? Et vous dites, en fait, c'est la porte, finalement, de la civilisation. Alors, expliquez-nous ça.
Parce que Marseille, c'est... En 600 avant Jésus-Christ, là, on remonte loin, 600 avant Jésus-Christ, vous aviez des cités grecques en Asie mineure. Il y a beaucoup de cités grecques. Très important, les cités grecques d'Asie mineure, de Turquie actuelle. Parce que c'est là qu'est née la philosophie, par exemple. Éphèse, Millet, etc. Bon. Et il y en avait une, donc, qui s'appelait Phocée, et qui créait des colonies, comme toujours, qui était très fort en bateau. Ils avaient inventé une sorte de bateau extrêmement rapide, extrêmement affilé, très efficace, et donc, ils créaient des colonies. Et à un moment, il y avait des bateaux qui cherchaient des colonies. Qui cherchaient de nouvelles possibilités d'ouvrir des colonies. Alors, ils ont. D'abord, ils sont aventurés à Cadix, mais la belle n'était pas encore là. Donc, ça les a déçus. Et ensuite, ils ont été en Corse, et ils ont trouvé qu'on ne pouvait rien tirer de cette île. Et donc, ils sont partis de Corse. Et là, ils sont arrivés, ils ont vu une espèce de baie, truc de Marseille, ils ont trouvé ça formidable. Formidable. Absolument. Et c'était à Marseille, il y avait c'était une tribu ligure. Et à ce moment-là, il y a le moment où ils arrivent, parce que les autres, c'était quand même des étrangers, des Grecs, etc. Ils auraient pu les virer, les chasser. Bon. Mais alors, le chef ligure, ce jour-là, avait organisé, ou pour le lendemain, avait organisé le mariage de sa fille. Et à l'époque, chez les Ligures, dans le mariage de la fille, ça se passait un peu comme, comme dans l'Odyssée. C'était un peu bizarre. C'est-à-dire, il y avait le mariage, il y avait la fille, mais il n'y avait pas encore le mari. Et c'est au cours du mariage que la fille choisissait son mari. C'est-à-dire, il y avait les prétendants, donc il y avait 4, 5, 6 prétendants, des petits chefs locaux, puis il y avait la fille que le chef mariait. Et la fille, à un moment, se levait avec la robe de mariée, avec un verre. Et elle passait devant les prétendants, et celui à qui elle donnait le verre, c'était son mari. Ça veut dire qu'elle le choisissait comme mari. Et donc, ça se passe comme ça. Donc, sauf qu'elle passe devant tous les prétendants, elle est snob, elle ne regarde pas, et elle va vers le grec. Elle lui donne le verre. Donc, le chef ligure dit, bah, puisque ma fille vous a choisi, bah, vous allez, d'accord, je vous marie avec... Alors c'était formidable, parce que du coup, il était marié avec le chef ligure, donc évidemment, le roi lui a dit, vous pouvez faire une ville, d'accord, je vous donne ce terrain, vous pouvez vous installer, etc. Évidemment, cette histoire est totalement fausse. Mais, parce que vous imaginez sept guerriers ligures qui acceptent que la meuf les envoie balader pour prendre le mec, le métèque qui vient d'arriver derrière. Personne ne peut croire ça. Mais ce qui est intéressant... C'est que faute de savoir la vérité, c'est l'histoire qu'on a appris à des générations de Romains et de Grecs. Donc c'est comme si c'était vrai. C'est bien sans sûr. Doute pas vrai, mais c'est comme si c'était vrai. C'est officiellement comme ça que s'est créé Marseille. Et donc ils ont créé une ville qui très vite, là aussi, ont chassé leur monarchie.
Monté un temple.
Une république, un temple, etc. Et c'est devenu et c'était très important parce que cette république grecque avec des mœurs grecques, etc. a irradié un peu sa culture sur une grande partie de la Gaule. Alors évidemment, quand il y a eu des bagarres entre les Gaulois et les Romains, ils étaient toujours du côté des Romains, parce que culturellement, en tant que Grecs, ils se sentaient plus proches de la culture romaine que des Gaulois qui leur apparaissaient des sauvages infernaux.
Oui, mais à la fin, ils se font couillonner.
À la fin, ils se font couillonner. D'abord, ils se font déjà couillonner quand les Romains créent la ville crée des ports concurrents, Bordeaux entre autres d'ailleurs, quand ils créent des ports, parce qu'ils étaient le seul port qui dominait tout le commerce. Donc quand les Romains commencent à créer des ports concurrents, Narbonne d'abord, puis Bordeaux, là ils se font absolument concurrents. De toute façon, ils ont très mal joué, parce que à un moment, il y a une guerre civile. Souvent, il y a une guerre civile à Rome. Jules César une fois qu'il a conquis la Gaule, Jules César prend le pouvoir à Rome. Ça lui a servi de tremplin.
Oui, on en parlera tout à l'heure de l'ascension de
Jules César. Et à ce moment-là, quand il prend le pouvoir, quand il se fait un coup d'État armé pour prendre le pouvoir à Rome, le Sénat lui oppose Pompée, qui était un autre grand général. Et donc, il y a un conflit, il y a une guerre terrible entre César et ses troupes et Pompée. César représentait la gauche, on dirait.
Oui. Mais parce vraiment, qu'il y a eu un affrontement.
Non, mais il était, c'est pas de la blague, il était le chef du Parti démocrate populaire à Rome, qui était vraiment la gauche, avec des propositions sociales, démagogues, etc. Et Pompée représentait la droite aristocratique. D'ailleurs, je vais revenir là-dessus, mais comme ça vous fait rire de dire que c'est la gauche, je vais vous raconter une histoire incroyable. Comment Jules César, avant de conquérir, donc avant d'être nommé. D'abord consul et ensuite la Gaule, de responsable de la Gaule et donc conquérir la Gaule. Avant, il avait commencé à monter dans les honneurs, il avait été nommé grand pontife et il y avait une fête à Rome qui s'appelait la fête de la grande déesse. Et dans cette fête, dans les grandes familles, on se réunissait dans la maison principale, mais seules les femmes avait le droit d'y participer. C'était totalement interdit aux hommes. Et donc, ce jour-là, il y a une grande fête dans la maison de Jules César, autour de la femme de Jules César. Alors, je ne sais pas ce qu'il faisait dans ces cérémonies. Par définition, aucun homme n'y a jamais participé, donc j'y étais pas. Et à un moment, comme c'était un grand appartement, à un moment, il y a une femme qui arrive, qui demande son chemin, qui dit « Mais où est la pièce principale où il y a le festin ?» Alors elle dit « Mais où est la pièce principale où il y a le festin ?» Alors la bonne femme qui l'écoute dit « Pardon, répétez ?» Alors elle dit « Où est la pièce principale ?» Je trouve qu'elle a une drôle de voix, cette femme-là. Alors elle appelle deux ou trois femmes, tout en faisant le truc, commence à le tâter un peu, et tout à coup elle se dit « Ciel, c'est un homme !» Et c'était un homme qui s'était déguisé en femme. Mais pourquoi cet homme s'est-il déguisé en femme ? Ben, pour une raison tout con, c'est qu'il voulait baiser la femme de César. D'ailleurs, je vous signale que c'est Jules César, du coup, alors qu'il n'avait pas été prouvé que la chose avait été faite. Jules César ne veut pas le savoir et il divorce, il demande le divorce. Et il dit, on ne doit pas soupçonner la femme de César. C'est de là vient la phrase, on ne doit pas soupçonner la femme de César.
Très bien. L'homme en question, c'était Clodius.
Alors justement, c'est de là où je voulais en venir, parce que vous allez me dire quel rapport avec le reste. Mais c'était sur le truc en vous disant que c'est le chef du parti de gauche. Naturellement, procès, type est arrêté, etc., scandale incroyable. Et César demande à l'auteur de ce blasphème, en fait, de comparaître devant lui. Le type, il arrive, il tremble, qu'est-ce qui va m'arriver, etc., il s'appelle Clodius. L'autre, il fait venir, dites-moi, vous êtes incroyable quand même. Donc, dans chez moi, sous mes yeux, vous avez eu le front d'essayer de baiser ma femme ? Mais attendez, vous ne pouvez pas passer à mon service, vous êtes un type incroyable. Moi, je vous engage. Vous êtes prêt à travailler pour moi ? Oh, tu dis, etc. Un type comme vous, qui a des couilles pour faire ça, moi, je l'engage tout de suite. Donc, il l'engage. Et pourquoi il l'engage ? Parce que comme il est le chef du parti de gauche démocrate populaire, et qu'il sait qu'il va aller en Gaule, il a besoin de faire nommer un type tribun du peuple pour agiter le peuple en sa faveur, et pour créer une agitation populaire auprès de la plèbe, etc. Et donc il se dit, un mec qui a osé faire ça, il osera tout. Et donc il lui dit, écoutez, moi, je vais vous faire nommer, je vais vous faire élire tribun de la plèbe, et vous allez être mon agitateur à Rome, etc. L'autre, il dit, je veux bien, mais je ne peux pas être tribun de la plèbe, je suis un aristocrate. Je suis un aristocrate de gauche, du genre même gauchiste, un peu très machin, mais je suis aristocrate. Alors l'autre, il dit, c'est pas grave, d'abord, vous appelez Clodius avec un D, vous allez prendre deux D, et déjà, c'est moins aristocratique. Et vous allez répudier vos parents, et je vais vous faire adapter par un balayeur des rues, vous allez devenir un mec de la plèbe, et je vous faire élire tribun de la plèbe. Et c'est ce qui se passe. Il est élu tribun de la plèbe, et pendant que Jules César est en Gaule, c'est lui qui va agiter le peuple sans arrêt, avec des discours démagogiques, etc., en faveur de César. Donc vous voyez que c'est, quand je dis César, c'était le chef de la Gaule, oui, c'était vraiment le chef de la Gaule. Donc il se heurt à Pompée, donc une guerre civile qui est une guerre sociale en même temps qu'est une guerre. Et Marseille n'arrive pas, en vérité, parce que Marseille était devenue très conservatrice. Pourquoi ? pour une raison très compréhensible, c'est comme ils étaient à une sorte de, comment dirais-je, de deal grec à Rome. Donc depuis 600 ans, ils vivaient dans la répétition de leur culture d'origine. Donc quand ils s'étaient installés en 600 avant Jésus-Christ, ils étaient très en avance. Ils avaient créé une république avant tout le monde, etc. Mais là, 600 ans après, ils étaient devenus un peu en retard parce qu'ils faisaient toujours pareil. Par exemple, leur sculpture, il ne fallait pas changer par rapport à la sculpture de 6 ans avant. Ou etc. Donc, ils étaient devenus un peu comme ça, très, très conservateurs. Et donc, comme ils étaient très conservateurs, ils penchent plutôt du côté de Pompée. Et naturellement, comme César qui gagne, César met le siège devant Marseille, et alors là, il conquiert Marseille, il détruit Marseille, et c'est la fin de la puissance de Marseille, quoi. Il la pille pas, il la brûle pas, mais il lui retire tous les oripeaux de sa puissance.
Parlons un peu de Jules César.
Parce que,
mais quel était un peu son comportement? Et parce que vous dites, c'était pas un grand militaire, mais il était toujours là.
C'est-à-dire, quand je dis que c'est pas un grand militaire, je veux dire par là que non, c'est un grand militaire, non, mais c'était pas un grand stratège. Il n'y a pas de bataille de César ou que genre Austerlitz, c'est bourrifant au point de vue de la stratégie. Mais c'était un type, d'abord, il avait un sens du mouvement. Rapide, terrible. Par exemple, alors, quand il bat vers Sergétorix, par exemple, il franchit les Cévennes en hiver, recouverts de neige, alors que les Gaulois croyaient que c'était impossible. Tout le monde croyait que c'était impossible. Et il les franchit. Il est très rapide. Il bat les uns, il va vers les autres. C'est un entrepreneur incroyable. À un moment, il y a les Helvètes, c'est-à-dire les Suisses, qui étaient des Gaulois, en fait. C'est une tribu gauloise suisse qui s'appelait les Helvètes. Ils avaient une obsession, les Helvètes. Ils se trouvaient mal en Suisse. Maintenant, c'est pas vrai, ce serait l'inverse. Tout le monde veut aller en Suisse. Mais eux, ça leur plaisait pas d'être en Suisse. Ils se trouvaient un peu enclavés, etc. Et leur obsession, c'était la mer. Ils voulaient aller au bord de la mer. Et en particulier, ici. Et donc, ils décident de partir de la Suisse pour aller ici. Et ils avaient pris contact avec des tribus d'ici qui étaient prêts à les accepter. Donc, ils avaient pris leur chariot, leur machin, leur femme, leur tout. Ils voulaient partir. Et César prend ça comme prétexte. Il présente ça comme une invasion. Il dit, c'est une invasion des Helvètes, etc. Et il dit, j'interviens pour barrer la route aux Helvètes. Ça va être son prétexte pour intervenir en Gaule. Et alors, il y a eu entre lui et les chefs Helvètes. Et les chefs Helvètes, il dit, je veux pas que vous passiez par là. Je vous interdis, etc. Les autres demandent à réfléchir. Il dit, on se retrouve dans 3 jours. Et dans les 3 jours, quand les Helvètes arrivent, il avait construit un mur de 10 kilomètres. On ne pouvait plus passer, il y avait un mur. En 3 jours, il avait construit un mur de 10 kilomètres. Et sans arrêt, il fait ça. C'est-à-dire, il a une capacité de faire construire des villes, des camps, des murs, absolument.
Et il produit sur place.
Et il produit sur place, avec le bois sur place. En plus, c'est un type qui a poussé très loin les techniques de l'espionnage.
Il a des indicateurs.
Dans toutes les petites rues romaines, il a des indicateurs. Partout, il sait tous les mouvements gaulois d'avance. Donc, et puis, c'est un politique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de batailles qu'il gagne sur le tapis vert. C'est-à-dire, il débauche l'un, il arrange l'autre, il crée des difficultés entre eux. Enfin, voilà. Donc, c'est un génie, mais pas particulièrement stratège.
On suit pas tellement la logique, mais parlez-nous encore d'Hannibal.
Hannibal, il a franchi la Gaule.
Les Gaulois l'ont suivi quand même.
Ouais, dans l'ensemble. Les Gaulois l'ont suivi quand il est passé par les Pyrénées, quand il venait d'Espagne. Donc il a traversé la Gaule pour aller en Italie. Et ils comptaient beaucoup sur le ralliement des Gaulois. En vérité, au début, ils ne sont pas ralliés. D'ailleurs, ils ont fait ce qu'ils font toujours. Il y avait un qui était pour Gaulois, pro Hannibal, et d'autres contre. Partout, à chaque fois, ils se divisent en deux. Mais quand ils gagnent les premières batailles, là, les Gaulois se rallient à lui. Et c'est sûr que comme ils n'avaient plus, avec tout ce qu'ils avaient perdu avec des éléphants, là, traversant les Pyrénées, traversant les Alpes, comme à la fin, il n'y avait plus que 20 000 hommes, s'il a pu grossir de 50 000 et battre 4 fois de suite les Romains, c'est grâce aux troupes gauloises, c'est grâce aux soldats gaulois. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est qu'on parle toujours des Romains qui ont envahi la Gaule. Mais avant que les Romains envahissent la Gaule, c'est les Gaulois qui avaient envahi l'Italie. Et ils avaient envahi Rome.
Brennus,
enfin, qui a sans doute pas existé d'ailleurs. Mais enfin, ils avaient envahi Rome. Et pourquoi est-ce que Jules César, dans sa stratégie de se faire nommer empereur et tyran, pourquoi il dit « il faut que je conquière la Gaule ». Parce que la Gaule, dans l'inconscient du Romain, c'est ceux qu'on conquit Rome. C'est en même temps des sauvages épouvantables et en même temps des guerriers formidables. En plus, en ce temps-là, une des particularités des Romains, c'était de pratiquer des sacrifices humains. Alors, du temps de Jules César, ils avaient arrêté. Mais n'empêche que pendant très longtemps, ils l'ont fait. Donc, pour les Romains, c'était vraiment le summum de la barbarie. C'était bon. Et donc, mais en même temps, des gens... qui avaient... Et donc, pour lui, battre ceux qui avaient conquis Rome... C'était le summum de la gloire. C'était très important que le fait qu'ils avaient soi-disant conquis Rome. Et ils avaient que Rome avait été sauvée grâce à quoi ? À des oies.
Bien sûr. Des oies du Capitole.
Ouais. Ce qui prouve d'ailleurs qu'on ne faisait pas encore de foie gras dans cette région. Sans quoi il n'y aurait plus des oies.
Oui, mais enfin, les Gaulois étaient des éleveurs d'oies.
Ouais, beaucoup.
Vous le dites en fin de volume, là. Parlez-nous encore d'Ambiorix.
Non, mais Ambiorix, c'est simplement ça illustre ce que je vous ai dit, que comme on a focalisé sur Vercingétorix, du coup, on a oublié Vindex, on a oublié Civilis, ce dont je vous ai parlé, et particulièrement avant l'histoire de Vercingétorix, deux siècles avant. Qu'est-ce que je raconte ? Deux années avant. Il y a un petit chef gaulois d'ailleurs, parce que c'était ça se passait dans les Ardennes, moitié Ardennes, moitié Wallonie belge, et qui a donc un petit peuple. Il devait avoir une armée de 4000 hommes ou de 5000 hommes, et il met hors de combat une légion entière. Il tue l'ensemble des soldats d'une légion romaine, 6000 hommes. 6000 hommes. C'est-à-dire, jamais César n'avait eu autant de pertes des troupes de soldats. Et c'est vrai que sur Ambiorix, il y arrive. Il faut dire qu'il emploie des moyens qui ne sont pas toujours très, très glorieux.
Surnommé le roi de la clairière.
Ben oui, parce qu'il est. C'est vraiment
un. Il se cachait partout.
Cache partout. Et d'ailleurs, ça se passe deux ans avant Alésia. Mais après Alésia, il continue à combattre les Romains, à faire de la guérilla contre les Romains. Et il est inconnu en France, mais il est très connu en Belgique. Il y a des statues de lui en Belgique.
Alors, vous avez un chapitre important, et je voudrais un peu que vous le développiez, c'est sur les anachronismes. Et je pense qu'on va terminer avec ça.
Si non, parce que, oui, je fais... Dans ce livre, je sais très bien qu'il y a deux reproches qu'on peut me faire. Pour extraire toute la vérité, je souhaitais qu'on me les fasse, parce que quand il y a une polémique autour d'un livre, c'est quand même bon pour le livre. Malheureusement, on ne les a pas faites. Pas encore. Mais je regrette.
Mais ça viendra. Ça viendra.
Donc, il y avait deux reproches qu'on pouvait me faire. L'un, c'est ce que vous dites sur le style, que style quand même très, très moderne. Et l'autre, qui est les anachronistes, c'est-à-dire que j'utilise des concepts d'aujourd'hui pour faire comprendre des problèmes d'hier. Et il y a des gens qui ne supportent pas, dans l'establishment d'historiens, il y a des gens qui ne supportent pas ça. Et donc j'ai fait un chapitre pour le justifier, pour l'assumer. Je trouve que l'espèce de chasse... le problème de l'anachronisme, c'est de savoir s'ils ont un sens ou qu'ils n'en ont pas. Car très souvent, ceux qui condamnent les anachronismes, en vérité, en pratique, sans s'en rendre compte, mais à mauvais escient. À mauvais escient. Je donne un exemple d'anachronisme à mauvais escient. Quand on raconte la guerre de Cent Ans, l'histoire de Jeanne d'Arc. En gros, vous avez une guerre entre les patriotes français et les Anglais et les collabos qui combattent avec les Anglais. C'est comme ça qu'on le raconte. Les patriotes nationaux et les collabos qui sont avec les Anglais. Mais ça ne correspond absolument pas à la réalité. La vérité, c'est qu'il y a une guerre civile en France. Là aussi, on pourrait dire gauche et droite au centre, c'est-à-dire vous avez des légitimistes qui sont derrière Charles VII, etc., le camp légitimiste, et vous avez déjà ce qu'on appellera plus tard les orléanistes, vous avez des gens, des réformateurs qui voudraient des réformes, qui voudraient un peu réduire le pouvoir du roi, faire les états généraux, et qui sont admiratifs de l'Angleterre, qui avait fait déjà ses réformes, etc. Et donc, il n'y a pas de collabo. Et d'ailleurs, beaucoup de ceux qui sont dans le camp Armagnac, c'est-à-dire dans le camp anti-anglais avec Jeanne d'Arc, 50 ans plus tard, passeront du côté des Anglais parce que tout à coup, leur intérêt sera d'être à côté des Anglais. Donc, ils n'en ont rien à foutre de savoir nationaux, pas nationaux. C'est vraiment politique, légitimiste. Bon. Et donc, ça, c'est anachronisme, le présenter comme si c'était un collabo et patriote. Pour le coup, parce que ça ne correspond pas à une réalité. Alors que dire gauche-droite pour les guerres civiles à Rome, c'est la réalité. Ça correspond à la réalité. Et quand vous lisez Cicéron ou Tacite, vous apercevez que c'est comme ça qu'ils le perçoivent. Et moi, pourquoi je défends l'anachronisme ? Quand, au bon sens du terme, celui qui correspond à une réalité. Quand un archéologue va explorer, par exemple, un terrain pour trouver une tombe grecque ou romaine, est-ce qu'il prend une bougie sous prétexte qu'à l'époque, il y avait que des bougies, ou est-ce qu'il prend une lampe électrique ? S'il prend une lampe électrique, ça veut dire qu'il prend un instrument que la modernité lui a donné. C'est quand même plus pratique pour découvrir la bombe. On peut dire que c'est un anachronisme. De la même façon, le progrès nous a donné des concepts qui permettent de mieux comprendre le passé. Il faut en profiter, il faut les utiliser sans qu'on comprenne rien. Imaginez qu'au lieu de vous dire droite-gauche pour les luttes sociales à Rome, je vous donne les noms romains. Ça ne vous dira rien du tout. C'est quoi ça ? Les optimates, d'un côté il y avait les optimates, et les autres les populares. Encore populares, vous pourriez deviner, mais populares contre optimates, ça veut dire quoi, etc. Bon, c'était la gauche et la droite, autant le dire, puisqu'on a ce concept. Ce concept voulant rien dire, d'ailleurs, gauche et droite. S'il y a quelqu'un qui pense que le concept de gauche et droite doit dépasser, c'est bien moi. Mais je veux dire, ça fait comprendre le problème. Et il y a beaucoup un anachronisme ridicule, c'est par exemple celui que notre ami Julien commet, comme beaucoup d'autres, c'est que les Édouards, par exemple, c'est-à-dire les gens de Bourgogne ou les gens de Champagne, qui sont les Rèmes, on les appelait, et Rèmes, ça donnait Reims, ou les Édouins, étaient pro-romains. Et ils les présentent comme des collabos. Comme un Français qui collabore avec les Allemands pendant la guerre 40. Ça n'a rien à voir. D'abord, il n'y avait pas de peuple gaulois, il n'y avait pas de nation gauloise, il y avait plusieurs peuples, il y avait deux partis, et il y avait toujours un parti républicain qui se sentait attiré par Rome, et un parti... D'ailleurs, très souvent, quand plus tard il y a eu des révoltes, souvent ce sont ceux qui combattaient avec César contre Vercingétorix qui ont été les chefs de révoltes postérieures. Donc c'est absurde. Ça, c'est un anachronisme. Mais en revanche, quand vous dites Jules César, à un moment, réprime une révolte de Germains, d'une tribu germaine qui a franchi le Rhin avec les Gaulois. Il la réprime. Et là, il extermine tout le monde, les femmes, les enfants, les bébés, et il le fait volontairement avec un cynisme et un sadisme terrible. Si vous dites c'est un crime contre l'humanité, aussitôt on vous dit non, mais c'est un anachronisme, crime contre l'humanité, c'est aujourd'hui qu'on dit crime humanité, ça n'avait aucun sens à ce temps-là. Ah bon ? Eh bien, vous apercevez qu'au Sénat, Caton, vraiment le leader de la droite sénatoriale, monte à la tribune et dénonce le crime de l'humanité de Jules César. Que Cicéron dénonce le crime de l'humanité de Jules César. De la même façon, quand vous dites Louis XIV, dans le Palatinat, les troupes de Louis XIV ont commis un épouvantable crime contre l'humanité. Ah là là, tous les admirateurs de Louis XIV, pareil, un anachronisme, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Mais attendez, toute la presse hollandaise, norvégienne, allemande de l'époque parlait de crimes de l'humanité contre Louis XIV. Et ça a marqué les esprits allemands de façon formidable. Bizarrement, les mêmes qui commettent souvent des anachronismes, en revanche, quand ça les dérange, ils vous dénoncent l'anachronisme. Non, je trouve que quand ça permet de comprendre, il faut employer les termes d'aujourd'hui.
Je vais vous demander de conclure. Et après, on passera à une petite période de questions-réponses.
Ben non, comment voulez-vous que je conclue ? Si, je peux vous conclure une chose.
Quand
je
même.
Peux vous conclure une chose, deux rapides. D'abord, que je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de livres sur l'invention de la France, l'invention de la République, l'invention de la nation, mais qu'il n'y avait pas de livres sur l'invention des Français, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que de briques, de brocs, de tribus, de sauvages, de bandes, etc., peu à peu, c'est constitué quelque chose qui s'appelle les Français, ça existe, les Français. Et comment ça s'est constitué, comment ça s'est modelé, comment ça a émergé, j'ai trouvé que c'était extraordinaire de raconter ça. Et ça s'est passé dans un espace de 1200, 1300 ans, et c'est un trou. C'est-à-dire que vous dites entre moins 600 et plus 600, 1200 ans, il s'est passé quoi ? Alors, au mieux, on vous dira Vercingétorix et Alésia et le baptême de Clovis. C'est tout ?
C'est tout.
Donc c'est un trou. C'est tout. Or, c'est dans ce trou que tout se passe. Tout se passe. Et en même temps, se passe à travers des événements qu'aucun romancier n'oserait imaginer, tellement ils sont extraordinaires. Et donc, j'ai eu envie de raconter à la fois l'histoire de l'émergence d'un peuple et à la fois qu'est-ce qui se passe dans ce trou.
Je vous conseille la lecture de ce bouquin. Vous passerez un excellent moment et vous ne vous ennuierez pas, croyez-moi. Bien, écoutez, je vous remercie.
Je vous remercie beaucoup pour votre attention.